France Culture.
Bonjour le Book Club et bonjour Jean-Claude Grimberg. Je tenais à vous dire que j'ai beaucoup aimé votre livre « Quand la Terre était plate », récit du souvenir ou parfois du non-souvenir. Évidemment, j'ai adoré retrouver votre capacité à nous faire passer du rire aux larmes, en passant même ici par la honte et l'amertume.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Comment raconter une histoire vraie, surtout quand on ne la connaît pas? Voilà le défi du Book Club aujourd'hui. Dans son nouveau livre, poursuivant l'entreprise d'écriture autobiographique menée depuis des années, Jean-Claude Grimberg réunit les bribes de ce qu'il sait de la vie de sa mère Suzanne pour coudre, fil et aiguille à la main, un récit traversé par les deux guerres mondiales. Y apparaissent une femme débrouillarde, marquée par l'exil, passée à deux doigts d'être arrêtée en 44, un frère devenu père de substitution, le vrai ayant été assassiné à Auschwitz. Son écriture au présent embrasse humour et vitalité. Jean-Claude Grimberg est notre invité. Vers 15h50, nous retrouvons les lectures d'actu de Diaty Diallo. C'est le discours d'investiture de Donald Trump qui lui fait ouvrir plusieurs livres pour parler romans américains, costumes et batailles de fiction. Et en fin d'émission, nous terminerons en chansons. C'est important les chansons. Nous voilà ensemble pour une heure. Soyez les bienvenus dans le Book Club. Bonjour Jean-Claude Grimberg.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Votre livre « Quand la Terre était plate » est publié aux éditions du Seuil dans la collection La Librairie du 21e siècle. On profite de votre passage ici au Book Club pour dire qu'une version de votre pièce est jouée en ce moment à la Scala à Paris. Ça s'appelle « Moment, pourquoi les méchants sont méchants ». C'est mis en scène par Noémie Pierre avec Hervé Pierre et Clotilde Mollet. Et on peut y trouver des échos avec le personnage de la maman dont il sera beaucoup question. Aujourd'hui, on mettra le lien sur la page de l'émission, mais le Book Club commence toujours par un portrait de nos invités en lecteur, en tant que lecteur. Dans le livre dont nous allons parler tout à l'heure, vous dites que la chose la plus précieuse pour un enfant, c'est le savoir lire et le savoir écrire. Vous le dites d'autant plus ou d'autant plus fort que vous racontez combien votre mère en a été privée pendant très longtemps, avant de raconter son accession tardive à la lecture. Est-ce que vous saviez, vous, Jean-Claude Grimberg, lorsque vous étiez enfant, combien lire était précieux?
Je l'ai appris. C'est-à-dire que j'ai commencé tout à fait incidemment, comme tout le reste, quoi. Je me souviens, enfin, c'est pas que je me souviens, ma mère m'a raconté que j'étais malade au lit, j'avais une angine. Et alors, de ma chambre, j'entendais les gosses de l'école jouer au moment de des récrés. Et je m'ennuyais, je lui disais, maman, je m'ennuie. Et elle est descendue à la loge chez les concierges, elle savait qu'ils avaient eu une petite fille et que cette petite fille était morte. Et un jour, la concierge lui avait montré les livres de la petite fille. Alors ça devait être Bécassine ou ça devait être des choses comme ça. Et elle est descendue, elle les a suppliés de me prêter un livre. Et donc le premier livre que j'ai lu, c'était un livre de la petite morte. Donc je devais pas ouvrir, je devais pas casser les... Donc je l'ai lu avec un respect profond. J'ai dû lire un Bécassine, ou après j'ai lu la série des fillettes et tout ça. Et j'ai été un lecteur enfant de la bibliothèque du 10e. Et puis très rapidement, j'ai eu trois cartes. Une pour ma mère, une pour mon frère qui a commencé à travailler et qui avait plus le temps. Au début, il venait avec moi, mais ça s'est vite arrêté. Et puis moi, qui devais prendre trois livres pour les petits, et je le faisais avec une honte terrible, et j'avais six livres pour adultes, qui étaient soi-disant pour mon frère et ma mère. Et mon travail, c'était de lire les neuf livres dans la semaine. Voilà. Donc je lisais un livre par jour. Et j'ai eu la chance que personne ne me dise « ça c'est un chef-d'œuvre, ça c'est de la merde ». Et donc, je lisais, il n'y avait aucune image sur les couvertures, tout était en grenat, voilà, une sorte de toile grenat avec une réserve noire et
le titre
et le nom de l'auteur en doré, et il n'y avait que ça. Et j'ai lu des tas de choses, jusqu'au jour où j'ai lu un livre, voilà, les années passées, quoi, j'ai lisé aussi bien sans doute des chefs-d'œuvre que des... J'avais repéré Zola, il y avait beaucoup de bouquins, Balzac, il y avait beaucoup de bouquins, alors des fois, bon. Et puis j'ai lu un jour un livre d'Howard Fast, un écrivain américain, juif américain, qui avait écrit un livre qui s'appelait « La dernière frontière ». Et c'était l'histoire des Indiens, voilà, à la frontière du Canada. Les combattants partaient pour leur dernier combat et laissaient dans la neige les squaws, leurs enfants et les vieux. Et c'est ça qui m'a plongé dans ma propre histoire. C'est-à-dire que brusquement, le génocide m'a attrapé.
Quoi.
Voilà, je me suis retrouvé, malgré moi, à penser à ces gens mourant de faim dans la neige, abandonnés avec les petits-enfants et les vieux. Voilà. Donc...
Par un détour par la littérature américaine. Et
oui,
par une autre histoire que la vôtre.
Voilà. Que je devais sans doute fuir. Ou alors, il y a une autre supposition, il y avait très peu de livres. Voilà. Alors, on lisait des livres sur les soldats de l'armée rouge. Et je me souviens avoir lu... Toujours, c'était en colo, et j'avais encore une angine. Et il y avait une toute petite bibliothèque, et il y avait... dans cette petite bibliothèque, un livre qui s'appelait « Un homme véritable » de Boris Polevoy. Et cet homme véritable, c'était un soldat soviétique. Les deux jambes, il avait perdu ses deux jambes au combat, et il traversait la Sibérie en se traînant sur... voilà, c'était le genre de lecture.
Vous aviez quel âge à l'époque, Jean-Claude Grimbert ?
J'avais... 12-13 ans. Et c'est à cette époque qu'enfant de déporté, à 13 ans, je visite... alors, on partait, les pays frères nous invitaient. Et donc, on est parti en Tchécoslovaquie, j'avais 13 ans. On a visité... J'ai des problèmes avec les noms propres.
Ravensbrück ?
Non, Ravensbrück, c'est Berlin-Est, c'est l'année d'après. Voilà.
Donc, vous visitez, bon.
Donc, on visite. Mais ça, c'était en Tchécoslovaquie, c'était une sorte de château. Ça ne nous a pas impressionnés. Et c'est à Ravensbrück que le souvenir que j'ai de la visite du camp, c'est Ravensbrück. Voilà, c'était un an après.
Mais quand vous dites, Jean-Claude Grimbert, il n'y avait pas de livre, et d'une certaine manière, c'est le détour par une littérature juive américaine et l'histoire des Indiens d'Amérique qui me met le nez dans ma propre histoire, vous avez l'impression que le jeune garçon que vous étiez à l'époque cherchait des livres pour comprendre la Shoah, pour comprendre
non.
la... Non.
Non.
Ça vous a surpris?
Oui, ça m'a la sexualité, c'est pareil. J'ai lu un livre et je me suis retrouvé dans un état que je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Et j'en ai parlé avec mon frère. Il m'a dit t'es foutu. Voilà, je pensais que j'avais une maladie très grave.
Et ça va? Ça a été finalement?
De ce point de vue-là. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Mais c'est aussi, j'ai conquis celle qui est devenue mon épouse grâce à Tchekhov. Voilà, j'ai fait lire les nouvelles de Tchekhov pendant que j'étais en tournée. Et donc, elle pleurait dans son lit au lieu d'aller courir avec d'autres. Voilà.
À lui, vous confiez cette femme que vous aimiez au livre, quoi.
Oui.
Pour vous la garder d'une certaine
ben
manière.
Oui, oui, oui.
Ça sert à beaucoup de choses, les bouquins.
Je n'avais pas beaucoup. Avec tous ces guitaristes qui passaient et qui les emballaient toutes, là, on était un peu plus âgés. On était déjà plus aux guitaristes.
Vous racontez...
Non, ça a été très important, les livres. Je pense que c'est ce qui m'a sauvé, en fin de compte. C'est-à-dire que j'étais apprenti. Donc, à 14 ans, je quitte l'école. Alors, j'ai une histoire, quand même, que je raconte à chaque fois. J'écrivais très mal, et je faisais des tâches, et puis... Mais, quand même, sans prétendre écrire un jour, je m'appliquais que pour les rédactions. Mmh. Et dans la première école où j'étais, j'avais que des zéros, parce que le prof avait décidé que j'écrivais trop mal, qu'il pouvait pas lire. Voilà, il me disait qu'il avait jamais été en Égypte, que
il avait de l'humour.
Voilà, pas tellement. Et j'ai changé d'école, et là c'était un cours commercial. Et ce prof de français nous a dit que pour le cours commercial, si on voulait faire du commerce, fallait écrire très bien, faire des belles lettres et tout ça. Donc je me suis un peu appliqué. Et le premier exercice que j'ai fait à sa demande, il mettait trois verbes ou trois adjectifs et il fallait faire une phrase avec. Voilà. Alors les autres mettaient les verbes, voilà, ça faisait une phrase d'une ligne. Et moi, je faisais un petit paragraphe. Et depuis le début, il lisait tout ce que j'écrivais. Voilà. Donc, je me suis pas aperçu de la chose. Et puis après, il y a eu l'histoire des prix. Donc, je devais être l'avant-dernier, puisqu'il y avait plus que deux prix. Et l'un, c'était un truc de science-fiction, et l'autre, c'était Madame Bovary. Donc je pouvais pas prendre Madame Bovary, je sais pas du tout ce que c'était, mais Madame Bovary avec les copains qui allaient me charrier et tout, donc je prends le livre de science-fiction. Il me tape sur les doigts et il me dit « prends celui-là ». Je lui dis « bah non, j'ai le droit de choisir, je veux prendre celui-là ». Il me retape avec sa règle et il me dit « prends celui-là et essaye de faire pareil ». Voilà. Donc, ça m'a pas impressionné sur le coup. C'est 20 ans après, quand je me suis mis à écrire, que j'ai dit, mais merde, ce type avait vu quelque chose que je n'avais pas vu en moi.
Voilà. Vous racontez aussi beaucoup votre amour pour les contes. Vous dites que vous aimez beaucoup Pinocchio et le
mais
Petit Poucet.
Mais je l'ai lu très tard, Pinocchio.
Et pourquoi vous l'aimez tant, ce conte?
Ça m'a émerveillé qu'on puisse montrer un gosse qui fait tellement de bêtises pour essayer de devenir un pantin qui fait tellement de bêtises pour devenir un vrai enfant. Et ben moi, j'ai ressenti sans doute ça dans ma vie. Voilà. Que j'étais pas un vrai et que pour devenir un vrai, fallait que je fasse rire les copains, fallait que je m'engueule avec tout le monde, voilà. C'était quelque chose. Quand j'ai fini de lire Pinocchio, j'ai dit à ma femme, je ne lirai plus que ça, Pinocchio.
Que Pinocchio.
Voilà, que Pinocchio. Je devais déjà avoir 40 ou 50 ans. Hein. Je pense que j'ai été privé de compte. Voilà. Et que je me suis mis très tard à lire les contes de Perrault. Et puis, c'est quand j'ai commencé à écrire pour la jeunesse. Aussi, accidentellement. Et puis, il y a une des pièces pour la jeunesse qui s'appelle Le Petit Chaperon Uff, qui est liée à cette maison. C'est-à-dire une dame qui travaille encore ici, m'a téléphoné un jour et m'a dit « Est-ce que vous accepteriez d'écrire une pièce de 20 minutes pour les enfants sur la Shoah ?» Je lui ai dit « Certainement pas ». Voilà. Et j'ai raccroché. Et puis ça m'a travaillé. Et j'ai fini par écrire Le Petit Chaperon Uff. Alors je lui ai dit, elle m'a dit, c'est trop tard. Voilà. Et Le Petit Chaperon Uff, maintenant, est dans les écoles et il vit sa vie de conte pour les scolaires. Je l'ai joué moi-même avec ma fille et un autre auteur qui s'appelle Serge Cribus. Et voilà, comment les choses se font. Voilà. En refusant un projet, il faut dire que...
Il s'est fait une place quand même.
Voilà, que le chemin se fait malgré ce non décisif. Voilà. Alors j'ai lu beaucoup les Juifs américains. J'ai lu beaucoup, bien sûr, les Russes, plutôt du 19e siècle. Bon, avec les grands, grands auteurs... Vie et destin étaient... Voilà, on se demande comment un type danse sous ce régime-là, à la folie de se mettre dans Vie et destin, ou les bouquins de Bulgakov. Voilà. Ce que j'ai moins lu, ce que j'ai mis beaucoup de temps à lire, c'est les auteurs français. Parce qu'il y avait toujours une petite pointe d'antisémitisme. Voilà.
Il y a quelque chose qui est frappant dans ce livre-là, et ce n'est pas la première fois, Jean-Claude Grimbert, c'est le dialogue que vous entretenez avec nous, qui vous lisons. Vous nous faites complices, vous vous adressez à nous. Est-ce que vous vous souvenez avoir ressenti ça en tant que lecteur? Est-ce que vous vous souvenez d'une romancière ou d'un romancier où vous vous sentiriez comme ça, pris comme ami? Est-ce qu'on vous a déjà parlé comme ça dans un livre?
Je pense que les Américains, oui.
Vous pensez à qui quand vous dites les Américains?
Alors, il y a un nom qui a disparu de ma tête, qui avait écrit « Je suis un imbécile ». Une nouvelle, c'était un auteur de... Sherwood Anderson.
Ben voilà, le voilà.
Voilà. Sherwood Anderson, mais il y a un roman... de Bruce J. Friedman qui s'appelle Stern, où il nous dit tout, on est avec lui. Et puis, je suis devenu au fil des ans surtout un auteur de nouvelles. Alors, on trouve ça beaucoup dans les nouvelles américaines. On trouve ça chez l'Arménien, comment il s'appelle? C'est dur, hein.
Bah ouais, vous me posez des colles, moi, je sais pas. Hein. Je regarde la régie désespérément, mais tout le monde lève les épaules. Alors, on a probablement moins de culture littéraire que vous, Jean-Claude Grimbert.
C'est un auteur arménien.
En tout cas, vous avez trouvé chez eux des bons copains, quoi.
Plus que ça, j'ai trouvé. Quand j'ai lu certaines nouvelles de Malamud, par exemple L'oiseau juif de Malamud, ou L'écrivain du tiroir, ou voilà, il y a dans toutes ces nouvelles, il y a des choses formidables, quoi. Puis il y a une liberté de ton. Qu'est-ce que doit chercher l'auteur? Voilà. Maintenant, je me pose cette question, je me la suis jamais posée. Bah, c'est comme dans tout, c'est la plus grande liberté. Mmh. Voilà. Alors, il faut la plus grande liberté et des contraintes. Voilà. Si vous écrivez une nouvelle, vous savez que vous allez... Ou un roman. Moi, quand je suis autour de 250 pages, il faut que je vais... Si ça dépasse, je vais essayer de trouver comment... Ça ne doit pas faire... voilà. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en train de se perdre avec les séries et les gens qui écrivent des bouquins avec un premier tome, deuxième tome, troisième tome.
Vous cherchez la densité, vous?
Je cherche à m'arrêter.
On va parler de votre livre à vous, Jean-Claude Grimbert, juste après cette chanson où Albin de la Simone évoque une photographie où il apparaît tout petit dans les bras de sa maman. Il la regarde bien des années plus tard, désormais adulte, en pensant « Il a bien de la chance, ce petit moi, de savourer en silence un moment dans ses bras qu'un jour il oubliera. »
La photo que je vois, cet enfant dans tes bras, je ne le connais pas, tu me dis que c'est moi. Je te reconnais toi, ta beauté lumineuse, hardie et valeureuse, heureuse, je ne sais pas. Il a bien de la chance, ce petit moi qui savoure en silence un moment dans tes bras qu'un jour il oubliera. Au loin dans la nature, en liberté l'aîné galope à belle allure sur le dos d'un poney. Et cet homme endormi, c'est un père, un mari, est-il déjà parti ou encore un peu là? Il a bien de la chance, ce petit moi qui savoure en silence un moment dans tes bras. Il a bien de la chance, ce petit moi qui savoure en silence un moment dans tes bras qu'un jour il oubliera, qu'un jour il oubliera.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Que les mères soient un mystère pour leurs propres enfants, cela arrive souvent. Mais quand cette mère a traversé la Première Guerre mondiale, connu l'exil et l'internement sur le sol français, connu l'arrestation, la déportation et la mort de son mari dans les camps nazis, traversé la Seconde Guerre mondiale à Paris, manqué se faire arrêter en 1944 et éduquer ses deux enfants vaille que vaille tout en travaillant, alors on comprend qu'il faille s'y reprendre à plusieurs fois pour en dire quelque chose. Mystère et boule de guerre, voilà une belle formule enfantine qui pourrait résumer l'entreprise à laquelle vous vous attelez dans ce nouveau livre, Jean-Claude Grimbert, faire avec le mystère de votre mère Suzanne, reprendre là où il y a des trous, broder s'il le faut, inventer même s'il le faut, mais dialoguer surtout, tant il apparaît que ce livre vous permet de parler autant avec les vivants qu'avec les disparus. Il s'appelle « Quand la Terre était plate ». Il est édité au Seuil. On en parle avec vous, Jean-Claude Grimbert. Je dis « Reprendre là où il y a les trous, inventer même, broder s'il le faut ». Est-ce que vous avez eu affaire, ou plutôt à quel matériel, avec quels matériaux avez-vous travaillé?
Au départ, j'avais quelques anecdotes, quelques récits. Sûrement, je pense qu'enfant, je m'en foutais qu'elle ait été dans un camp, qu'elle ait traversé l'Europe pendant la guerre 14 avec sa mère et ses deux frères. Mmh. Et que j'y attachais pas d'importance. Je voyais le grand-père, la grand-mère était devenue sourde. Donc, ils étaient depuis 50 ans en France, continuer à parler yiddish. Voilà. Moi, je ne voulais pas apprendre le yiddish. J'étais le petit français. Et ma mère parlait un français. Elle déformait des mots. Par exemple, elle disait un estrapontin. Et il n'y a pas si longtemps, enfin, à l'époque où je prenais encore le métro, j'ai vu une dame qui visiblement était ou espagnole ou italienne, un gosse a voulu se lever. Elle a dit, non, je vais prendre l'estrapontin. Bon, j'en aurais pleuré de... C'est... Donc, j'avais des éléments et surtout, j'ai... Comme on peut dire, je suis près de la petite porte, voilà, et je ne lui ai pas dit merci. Mmh. Voilà, elle est partie. Alors, j'avais dit merci à Jacqueline.
Votre épouse.
Et je me suis dit, il faut quand même, avant de partir, que... Ce que je ne lui ai pas dit quand nous étions tous les deux debout, voilà, ou même quand elle était couchée, que moi j'étais debout. Voilà, c'était plus pour réparer cette négligence.
Est-ce que vous diriez que dire merci à votre mère, Jean-Claude Grimbert, ça veut dire écrire un peu de sa vie? C'est votre manière? Parce qu'il n'y a pas que dire merci dans ce livre. Il y a des moments d'adresse où vous la remerciez. Quoique c'est même encore plus subtil et presque plus tenu qu'un vrai merci maman. Mais il y a aussi une façon de la remercier en disant les bribes de son existence. C'est ça, saluer une vie d'une certaine manière?
Oui, comme en même temps, j'en ai profité pour remercier mon frère.
Et votre père même.
Sans raconter la vie de mon frère.
Ouais.
Alors, le matériel, c'était quelques anecdotes.
Quelques photos rares.
Quelques photos. Et puis, le désir, c'est-à-dire de raconter. Et après, j'ai dû trouver des solutions je me suis trouvé face à des problèmes que je n'avais jamais eu avant.
Lesquels, par exemple?
Par exemple, j'ai fait l'erreur d'écrire les anecdotes que je connaissais. Et après, il fallait que je trouve le chemin pour... En général, quand on écrit, on a une ligne. On sait à peu près où on va. Là, j'avais des anecdotes. Et j'ai mis des mois avant de comprendre que le conte allait m'aider. Mmh. Et que le conte... Alors, l'éditeur qui venait de partir... Et avec qui je n'avais pas parlé de ça, je l'introduis, puisque dans mon livre précédent, un jour je lui ai dit que je voulais arrêter, que c'était pas bon et tout, il a dit, toi t'écris, c'est moi qui édite. Je lui ai dit, moi j'éditerai pas ça. Il m'a dit, t'as pas à l'éditer, c'est moi qui l'édite. Voilà. Donc, je me suis servi de lui pour qu'il m'oblige à continuer.
Et alors, quand vous dites « le conte a été ma solution pour, d'une certaine manière, bondir d'anecdote en anecdote
»,
c'est-à-dire bondir
par exemple,
aussi dans les périodes, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a le passé, mais il y a aussi du présent.
Oui, mais je peux mettre des bottes.
Ah bah voilà.
Et je peux traverser
l'Europe, par exemple,
voilà.
Ou le temps.
En guerre. C'est-à-dire, ils partent de je ne sais pas où en France, et ils vont à Brody, qui est l'extrême est de l'Autriche-Hongrie. Et quand ils y arrivent, la guerre est finie, il n'y a plus d'Autriche-Hongrie. Et ils vont mettre encore un ou deux ans...
Pour revenir en France.
Pour revenir en France et retrouver le grand-père et faire de nous... Et que ce couple séparé refabrique une petite fille. Voilà. Donc c'est... Il faut continuer. C'est-à-dire, sinon, il y a toujours un moment où on se met à douter. Alors, si on s'arrête quand on doute, on n'écrit plus. Voilà, alors.
Et d'ailleurs, vous mettez en scène vos propres dialogues avec vous-même, Jean-Claude Grimbert, dans des moments assez, assez drôles où vous vous dites « Non, franchement, j'en ai marre, j'y arrive pas. » Ou alors « Est-ce que je vais encore raconter cette chose que j'ai déjà racontée ?»« Bah oui, mais ressasser, ça fait partie de l'écriture. C'est en ressassant qu'on trouve des nouveaux chemins, des nouveaux angles de regard. Il y a des bribes de certains passages de votre vie, notamment l'arrestation de votre père, sa déportation, sa mort, qui sont dites là, mais qui sont dites d'une autre manière, de la même façon que, comme vous êtes mise à l'abri avec Maxime, votre frère, pendant la Seconde Guerre mondiale, et comme vous retrouvez votre maman d'abord effrayée parce que vous ne savez pas qui est cette dame et que c'est Maxime qui vous dit « mais c'est maman, c'est maman, embrasse-la ».
Et son accent de parigote, sa voix pointue, me fait mourir de rire et en même temps me terrorise. Qui est cette dame qui parle si bizarrement et qui veut absolument m'embrasser? Alors, j'en ai peut-être remis un peu.
Pour romancer?
Non, je pense aller comme enfant, j'en ai peut-être remis un peu. Mais j'ai ramené une... On était partis en vacances, Jacqueline et moi, en Espagne, en 68. Et on avait emmené une petite nièce. Et donc, on est resté un mois et demi. Il n'y avait pas d'avion, c'était la Révolution. Les Espagnols nous disaient, on a encore tué 100... la police a tiré, il y a 100 étudiants qui sont morts, voilà, tout. On était dans un état terrible. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais
vous
dire.
Vous êtes en Espagne avec Jacqueline,
oui,
votre épouse et votre
nièce. Et donc, on ramène la gosse au bout d'un mois et demi. Et pour monter jusqu'à l'appartement où sa maman l'attendait, il y avait une sorte de grand escalier. Elle monte et je vois qu'elle est très... Et je lui dis, tu vas revoir maman. J'ai la sang qui se lève. Et quand la porte s'ouvre et qu'elle voit sa mère, elle se cache derrière nous. Voilà. C'est-à-dire qu'elle joue la scène...
Que nous avons joué. Vécu
au bout d'un mois et demi, elle ne reconnaît plus sa mère. Sa mère lui fait peur. Et c'est pas qu'elle lui fait peur. L'émotion de la revoir lui fait peur, sans doute. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'arrive pour être... Alors, peut-être que j'étais comme ça, que j'étais trop ému. Et que Mais là, la séparation, elle était de 2 ans. Voilà. Avec... des déplacements, avec des... Quand elle part, elle, quand ils vont dans ce camp français où on mettait les espions potentiels qui étaient venus d'Autriche-Hongrie...
Donc là, on revient, on quitte la Seconde Guerre mondiale pour revenir bien en amont.
Bon... On est dans une atmosphère que moi, j'ai pas connue, que je peux pas imaginer. Qu'est-ce que c'est que cet endroit où on met des familles supposées être des espions potentiels, on les met dans un camp, on sépare les hommes et les femmes. Donc, la grand-mère qui est déjà à moitié sourde, qui ne parle pas français, qui parle que le yiddish, et qui n'a pas l'espoir d'apprendre le français à cause de sa surdité, se retrouve avec ses 3 enfants, et l'armée qui dit... C'est quand même des soldats qui les gardent. Prennent la décision de renvoyer les familles. Pourquoi les nourrir puisqu'ils produisent rien, et de garder les hommes et de les mettre au boulot.
Et dans ce passage-là, Jean-Claude Grimbert, vous nous dites bien à nous, lecteurs, lectrices, non, 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 je ne me suis pas trompé de guerre, je ne me suis pas trompé de camp, je vous parle bien de cette première moitié du XXe siècle. Et il y a quelque chose que vous attrapez de l'histoire de votre mère qui rejoue presque en avance une part de la tragédie.
Il y a 60 camps. Voilà. Ça, je l'ai lu dans un livre que je trouve dans une site. C'est-à-dire qu'un jour, dans la librairie où je vais acheter des livres d'occasion, je tire le 3e bouquin que je tire d'un sorte de truc qu'ils ont dehors. C'est les camps de concentration français de 14-18. Donc, c'est pas moi qui nomme camp de concentration. C'est nommé camp de concentration. Bien sûr, ça n'a aucun rapport. La destination du camp n'est pas la même. Mais les parents sont nés à Brody, mais les trois enfants sont français. Ils sont nés en France, à Paris. Et on en voit quand même tout le monde à Brody. Alors, sans doute, c'est un échange, puisqu'il y avait des supposés espions français qui vivaient dans les pays, qui vivaient en Autriche-Hongrie. Donc, ils ont dû faire un... Mais ça, ma mère n'avait aucun souvenir de ça, ou elle considérait que ça n'était pas intéressant. Oui, ce qui était intéressant, c'est comment sa cousine lui met des œufs dans une ceinture qu'elle a fabriquée pour passer l'octroi à Prague et ne pas payer et aller vendre ses œufs en centre-ville. Et qu'elle sorte avec ses œufs écrasés, elle est en omelette, et sa cousine a tous les œufs intacts.
Mais vous racontez, Jean-Claude Grimbert, que à la fois votre mère semble vous dire « Oh, j'ai oublié, qu'est-ce que tu me poses comme question ? Mais non, cette ville, je m'en souviens plus. T'as que ça à faire de remuer le passé, etc. » Donc à la fois une sorte de dialogue dont on ne sait pas s'ils sont fictifs ou pas d'ailleurs, qui ont peut-être eu lieu entre votre mère et vous, mais que vous écrivez comme de véritables dialogues de théâtre. Et puis vous dites aussi « Peut-être que je lui ai pas assez posé de questions. » Peut-être qu'en fait, je me suis
même pas écouté.
Oui, ou que vous n'avez pas écouté. C'est-à-dire que vous dites, en fait, je ne sais pas si je ne sais pas assez de choses de ma mère parce qu'elle n'a pas voulu me dire, ou parce que moi, en tant que fils, j'ai pas assez prêté attention à cette femme. Donc, vous écrivez aussi que vous avez compris tard sa solitude, que vous avez compris tard son dévouement à ses deux enfants, que vous vous êtes assez peu intéressé de savoir si elle avait été amoureuse, si elle avait vécu d'autres choses. Comme s'il y avait quelque chose qui était, bah oui, un impossible intérêt, quoi, malgré l'amour.
Oui, c'est aussi le moteur du livre. C'est-à-dire que, y compris la fin de sa vie, j'étais pas là. Ce jour-là, j'avais les yeux dilatés et l'ophtalmo me dit non, je peux pas vous faire l'examen. Je dis mais j'ai les yeux dilatés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Appelez votre femme. Appelle ma femme qui me dit voilà, elle a eu une crise cardiaque, elle est morte sur le coup, ce qui est une très belle mort. Mais j'allais la voir deux fois par semaine, mais c'était le... En même temps, je jouais l'atelier. C'est-à-dire, je jouais sa vie.
Qui racontait sa vie.
Qui racontait sa vie, une partie théâtralisée de sa vie et de la vie du groupe dans lequel elle avait vécu. C'est-à-dire, ces femmes de l'atelier, c'était ses amies. Même si elles se croisant dans la rue en sortant de l'atelier, elles ne se faisaient aucun geste. Mais je sais qu'il y en a deux ou trois qu'elle aimait, et d'ailleurs qui sont venus voir, après sa disparition, qui sont venus voir la pièce dans laquelle elle figurait avec elle. Non, de toute façon, c'est pas moi qui l'ai découvert. Hein. Quoi qu'on fasse, on fait pas bien. Les parents font pas bien avec leurs enfants.
Et les enfants
font encore moins bien avec leurs parents.
Moins bien, vous croyez?
Ah oui. Ah oui. Alors, elle a donné sa vie pour nous. Elle aurait pu. Maintenant, quand je regarde les photos, je m'aperçois que c'était une jolie femme. Elle s'entendait pas avec. Ce que je sais de mon père, c'est qu'il s'entendait pas bien, quoi. Pour des raisons qui sont, à l'époque, étaient des raisons terribles. C'était un joueur. Voilà. Donc il jouait, donc il ne voulait jamais lui donner du pognon pour acheter quoi que ce soit, puisqu'il avait besoin d'aller perdre son pognon. Donc voilà, c'est... On ne fait pas bien. J'ai pas fait bien. Je ne me suis pas occupé étant auteur. Mon père est un déporté. Là, j'ai une anecdote. Il y a une journaliste qui est venue me voir. et qui m'a, je lui ai parlé du, de la déportation de mon père. J'ai raconté un truc, elle m'a dit « Non, non, c'est pas ça du tout. C'est pas les mêmes dates. » Moi, j'avais construit dans ma tête que mon grand-père aveugle était... Mon père l'avait rejoint à Drancy, et donc les deux mois que mon grand-père aveugle était supposé rester à Drancy, ou surtout son voyage, le voyage, il l'avait fait avec son fils. Alors j'étais triste pour Zacharie, donc mon père, et pour Naftali, le nom de mon grand-père, qui est déporté aveugle, pendant que j'écrivais tout ça une première fois, j'avais perdu un œil et je commençais à perdre l'autre. Voilà. Donc, je ne voulais pas que cet aveugle se retrouve seul dans le train. Et je lui ai collé mon père avec. Et alors, on a parlé du comique tout à l'heure.
J'aurais qu'on y vienne en écoutant un extrait de votre texte, ouais.
Alors, je vais juste vous dire. La loi a été changée, c'est-à-dire qu'on peut maintenant entrer dans n'importe quel bureau d'état civil et faire établir l'acte de décès sur lequel c'est marqué « mort à Drancy », on peut le faire corriger pour que ce soit marqué « mort à Auschwitz ». Voilà. Mais, moi je n'ai pas d'ordinateur, et très tôt, une dame qui avait dû voir l'atelier m'a dit, j'ai cherché pour vous quelle serait la formule qu'on inscrirait sur le nouvel acte de décès si vous alliez le chercher.
De votre père.
Voilà. Et donc, ce serait Zacharie IE, né EE, et Naftali IE, né EE, à Galatz, Roumanie. C'est-à-dire que dans la correction, je ne perdais plus mon père et mon grand-père, je perdais ma mère et ma grand-mère. Voilà, alors, c'est ça qui est formidable, c'est que la farce se glisse partout.
On écoute un extrait de votre texte, Jean-Claude Grimbert.
Un beau jour, en revenant de la piscine municipale au début des années 50 ou à la fin des années 40, boulevard Bonne Nouvelle, natation scolaire hebdomadaire et obligatoire, je me suis mis à boitiller. Le docteur des pieds a dit qu'à son avis, si la terre pour moi n'était plus aussi plate qu'avant la guerre, c'était à cause de ma date de naissance, trop proche de celle du début de cette guerre maudite. Il a dit aussi qu'avec un peu de sport, une ou deux cuillerées d'huile de foie de morue chaque matin, merci docteur, l'ablation des verrues et le port de semelles orthopédiques qui me feraient marcher droit, j'irai loin. Et il a murmuré, juste pour Suzanne, mais j'ai quand même entendu, l'angoisse chez les mômes devient plus contagieuse que les verrues plantaires. Puis il s'est assis et il s'est mis à écrire tandis que maman me relassait mes godasses. Au bout d'un moment, il a relevé les yeux et il a demandé du bout des doigts si le papa de ce... Suzanne a baissé la tête et haussé les épaules, tout en triturant de nouveau son mouchoir de manche. « Combien je vous dois, docteur ?» Alors il a froncé les sourcils, comme s'il était subitement très en colère, et il a dit « Ici, l'argent n'entre pas le samedi. » Alors elle a baissé la tête, et il l'a raccompagnée jusqu'à la porte palière en posant sa main droite sur son épaule gauche, comme s'il voulait l'aider à se tenir droite et à marcher. Moi, j'étais derrière. Je boitillais encore un peu, mais ça allait déjà mieux. Et c'était comme si, pour la première fois de ma vie, je marchais derrière une mère et un père. Arrivée rue Rochechouart, j'ai donné le bras à Suzanne. Elle ne me parlait pas, elle avait l'air de réfléchir. Je lui ai dit alors, histoire de causer, « Il est gentil, docteur des pieds, il t'a pas fait payer ?» Alors elle a dit tout bas, sans même me regarder, « J'aurais préféré payer. »
À un extrait de votre texte « Quand la terre était plate », Jean-Claude Grimbert. On aurait pu remonter un petit peu plus loin dans le texte pour faire apparaître la naissance de ces verrues, la manière dont cet enfant comprend que ces verrues sont arrivées avant d'arriver chez ce docteur. Mais pour dire que quand vous dites « la farce invite partout », eh bien, il y a quelque chose dans la manière dont vous faites exister l'enfant que vous étiez dans ces pages et la gravité que peut porter aussi cette scène avec le médecin, qui est, c'est comme deux pieds, quoi. C'est comme avancer toujours sur deux pieds, d'une certaine manière. Comment est-ce que vous les gardez vifs, ces deux pieds-là, Jean-Claude Grimbert?
Avant, je disais...
La capacité de rire et d'être heureux.
Avant, je disais que si vous avez un cancer et que vous êtes invité chez un copain, si vous arrivez, que vous vous mettez à pleurer, que vous décrivez le cancer dans toutes ses conséquences et ses soins et tout, il va pas vous réinviter. Donc, il faut parler de son cancer en faisant rire les gens. Si on veut être réinvité. Or, écrire un livre, on a besoin on a besoin que des gens aient envie de vous lire. Sinon, ça sert à rien.
Vous racontez aussi combien, finalement, c'était la place à laquelle vous vous étiez mise vis-à-vis de votre mère Suzanne. Vous étiez l'enfant qui devait la faire rire, qui avait aussi une forme de responsabilité à ça.
Oui, et on faisait le même boulot. C'est bizarre, mon frère, lui, mon frère était obligatoirement sérieux, puisque à 10 ans, il avait la place du père, quoi. Il était... lui, les souvenirs qu'il a de la guerre, de cette période où on est livré, où je suis livré à lui et lui est livré à...
Oui, vous dites il a été un père pour moi et lui, qui a été un père pour
voilà.
Lui
il était dans une grande angoisse, alors que moi, j'étais peinard, j'avais mon frère. Et on n'a pas du tout les mêmes souvenirs. On a des souvenirs opposés. Lui, il a les souvenirs qu'il a, ce qu'il avait dans la tête. Comment s'en tirer, qu'est-ce qui allait se passer. Moi, j'allais bien. Et donc, je pouvais le faire rire, Mais c'était mon arme aussi. C'est-à-dire que j'étais pas costaud, j'étais pas... On était rachaud, hein. Alors, j'avais un trou dans la poitrine, c'est pour ça que j'aimais pas aller à la piscine non plus. On voyait... c'est pas les côtes qu'on voyait, c'était vraiment... Donc... Le moyen, j'avais des grosses lunettes. À l'époque, quand on était myope comme moi, on avait deux culs de bouteille, donc avec deux petits yeux en trou de bite. C'était affreux. J'étais le binoclard et tout ça, machin. Donc j'ai trouvé, et puis j'avais un don. Voilà. C'est-à-dire, dès le début, alors que j'étais considéré comme un mauvais élève parce que je ne voulais rien foutre, et que rien ne m'intéressait, dès qu'il y avait un texte à lire, c'était Bibi, tu viens, tu lis le texte, voilà. Et c'est curieux parce que Jacqueline s'est trouvée dans la même situation.
Votre épouse.
Voilà. Elle qui a eu un commentaire extraordinaire que je regrette de n'avoir jamais eu sur un truc à faire signer par ses parents, c'était marqué « peu, fais moins ». Voilà, c'était extraordinaire. C'était sa gloire. Voilà. Et on ne voulait rien faire. Hein. On ne voulait rien faire. Il n'y avait pas d'avenir. Mais on n'était pas dans l'état des gosses d'aujourd'hui.
Oui, parce que vous racontez aussi combien peut-être il n'y avait pas d'avenir, mais il y avait de la vitalité. Vous dites paradoxalement, nous avons eu une enfance heureuse, et quand vous racontez le dialogue que vous pouvez avoir avec certains jeunes gens, dont vous dites qu'ils ne ressemblent à rien de ce qu'on dit dans les médias, ce sont des enfants qui s'intéressent à vous, qui vous posent des questions, Jean-Claude Grimbert, qui vous disent d'où viennent leurs parents, etc. Vous dites tout votre amour pour cette jeunesse et pour ce présent, en célébrant la paradoxale enfance heureuse que vous avez vue
oui.
passer, vous. Alors que votre père est mort à Auschwitz, que votre grand-père est né, et que vous avez eu la vie d'enfant que vous avez eue.
Oui, il y avait... On n'était pas tous les jours en train de pleurer. On n'en parlait pas. Après, c'était pour des raisons. D'abord, qu'est-ce que cet homme était devenu ? C'est-à-dire que ça a mis des... Aujourd'hui, là, qu'on parle d'Auschwitz, Je vais vous dire, l'indécence était telle que lorsqu'ils raflent les collabos, où les mettent-ils ? Aux Veldives. Et qu'est-ce qu'ils en font quand ils doivent récupérer le Veldive ? Tout comme après la rafle des Juifs, il faut déblayer pour pouvoir faire de nouveau le vélo, le truc, la boxe et tout. Et donc, faut tout nettoyer, le vomi, le truc et tout. Qu'est-ce qu'ils en font des collabos en sortant du Veldive ? Ils les mettent à Drancy. Voilà. C'est-à-dire, il n'y avait même pas ce minimum de respect pour ce qu'ils avaient fait. Donc, on vivait dans une sorte de négation du... Il n'y avait pas de drame, quoi.
C'est pour ça aussi, c'était impossible à raconter et à entendre une des choses que vous dites dans « Quand la Terre était plate ». Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Je vous presse parce qu'il est 15h51, déjà l'heure de retrouver Diaty Diallo. Bonjour Diaty.
Bonjour Marie.
Pour la chronique lecture d'actualité, vous sortez des livres en fonction d'un écho avec une actualité de la semaine. Quel livre avez-vous sorti de votre bibliothèque cette semaine ?
Alors j'en ai sorti plusieurs. J'avais envie d'évoquer le discours d'investiture de Donald Trump, mais j'avais pas envie de parler de sidération, de peur. Plutôt d'essayer de comprendre ce qui pouvait s'y jouer d'autre, qu'on pourrait peut-être s'approprier. Et en discutant avec un proche, cette question a émergé. Dans quel costume Donald Trump choisit-il de faire ses discours ? Et ce qui m'a d'abord frappé en l'écoutant, c'est le sentiment d'être face à un petit garçon qui rêve à voix haute, son monde idéal. Façon, il y aurait des immeubles hauts comme ça, et au dernier étage, on verrait même la planète Mars, et puis plus personne viendrait me piquer mon Action Man, et puis les hommes, ils seraient tellement forts qu'ils pourraient soulever des Tesla Cybertruck avec seulement un seul doigt, etc., etc. Puis, je me suis souvenue, en regardant son discours, que j'avais jamais entendu parler de Donald Trump avant de lire « Adolescente, American Psycho » de Bret Easton Ellis, où son nom est mentionné pas moins de 30 fois, et dans lequel il n'apparaît pourtant pas une seule. Dans le livre, il représente le modèle ultime de la masculinité, une véritable obsession donc pour Patrick Bateman, le narrateur, qui est donc un youpie, ce qu'on appelle Young Urban Professional, de Wall Street des années 80, complètement intoxiqué par son propre virilisme, et qui se révèle être un tueur en série. Je vais vous lire un petit extrait. « Tiens, lis ça, histoire de te prouver que tu te trompes. Un article à propos de ton héros, Donald Trump. » Il pointe un doigt accusateur sur le dernier paragraphe qu'il a souligné en rouge. Et d'après Donald Trump, où sert-on les meilleures pizzas de Manhattan ? Mais laisse-moi lire, dis-je en soupirant, lui faisant signe de s'écarter. Et maintenant, qu'est-ce que tu penses, toi, des pizzas de pastels, Bateman ? Eh bien, dis-je, pesant soigneusement mes mots, je crois qu'il faut que j'y retourne et que je regoute leurs pizzas. Je grince des dents.
Alors en effet, Diaty, être admiré par un tueur en série, même dans un roman, même en fiction, c'est pas tout à fait ce qu'il y a de plus flatteur.
C'est clair. Mais pour autant, les deux personnages ne partagent pas exactement la même direction artistique. Si Patrick Bateman, dans le livre, choisit ses costumes avec un soin démesuré, ceux de Donald Trump donnent une indication un petit peu différente. Dans son livre « Le Boys Club », Martine Delvaux évoque les atours du président des États-Unis par ces mots, je vais la citer. « Donald Trump, tant affectionné par Patrick Bateman, est reconnu comme le président américain qui porte les costumes les moins bien taillés. Trop grand pour lui. Les manches sont trop longues et la jambe trop large. La veste donne l'impression d'épaules artificiellement augmentées. Ses costumes sont chers, mais on dirait un président qui porte les habits de son père. Un uniforme dans lequel il joue. Le vêtement en dit long aussi sur sa manière de diriger le pays. Il s'en fout. N'a rien à faire des détails. Il a le costume, on lui a confié le rôle, et c'est bien assez. »
Est-ce que pour vous, c'est une façon de dire, ou pour Martine Delvaux, que Donald Trump peut être regardé comme un personnage de fiction ?
Est-ce qu'à partir du moment où on porte un déguisement, on en est un ? Si oui, alors ça nous laisse un pouvoir immense. Sur ça, je pense à un livre que je viens tout juste de terminer, qui s'appelle Vixens, Les égéries oubliées du rap français, de Soraya Razel. C'est un récit qui raconte la vie et le métier inconnu de ces meufs de clips, je mets des guillemets, présentes dans chaque strate de la culture hip-hop et pourtant largement invisibilisées par celle-ci. Ça peut peut-être paraître éloigné du costume de Donald Trump à première vue, mais en s'attachant à décrire le meilleur comme le pire de cette puissante industrie musicale, des identités marginalisées qu'elle remet au centre, à son système de domination et de prédation sexiste et sexuelle auquel elle n'échappe malheureusement pas, Le récit de Soraya Razel nous emmène sur les routes de femmes en costume derrière les costumes de ceux qui prennent toute la lumière. Elle convoque ainsi des imaginaires esthétiques et politiques essentiels. Il y a notamment l'univers des cabarets, par exemple. Ces lieux où comment on s'habille, où on se déshabille, où le personnage qu'on se crée sur scène la nuit s'inscrit dans une stratégie consciente d'émancipation et de quête de soi.
Alors vous nous intriguez avec ces vixens, quels costumes elles portent et quels costumes on pourrait éventuellement leur emprunter, Diaty?
Alors c'est un costume en trompe-l'œil, je dirais. En rejoignant les codes les plus symboliques de ceux qui formatent le désir cis masculin, elles dissimulent qui elles sont à la ville pour mieux se révéler en femmes libres, puissantes et saurores. C'est ce costume-là qu'on pourrait essayer pour voir. Dans son livre, Soraya Razel explique comment elle retourne sa situation en choisissant d'améliorer celle des autres. Afin de pouvoir protéger les vixens, elle s'est faite la représentante de certaines en devenant directrice de casting. Dans un passage du livre, elle fait part à ses consoeurs de sa volonté d'auto-organisation. En voici quelques extraits. Ces règles, je les présente encore aujourd'hui à chaque nouvelle vixens. Pas de rapport hiérarchique entre nous. Je ne vous imposerai jamais une tenue ou une mise en scène qui vous met mal à l'aise. Je ne laisserai plus aucun vieux type vous dire comment faire votre travail. Les filles, nous sommes méprisées et malmenées par les acteurs de cette profession. Nous devons impérativement veiller les unes sur les autres. Si vous voyez quelque chose de suspect, il faut parler. Car je vous croirai. Chaque fille aura le projet qui lui correspond, tout le monde aura sa place. Voilà ce que je vous propose. Essayons ensemble.
Si je comprends bien, il s'agit de pouvoir se choisir à la fois son propre costume pour se reconnaître entre pairs et affronter les costumes qu'on porte en face.
Mais oui. Pourquoi on ne laisserait le pouvoir du costume qu'à ceux qui le portent en deux ou trois pièces luxueuses? Il y a quelque chose à aller chercher dans cette idée d'incarner, de s'amplifier, de parader. Peut-être un contre-carnaval. En tout cas, si j'ai choisi de parler de ce dernier livre, c'est parce qu'il s'y niche nombre de ces identités dissidentes que l'extrême droite occidentale cherche à contrôler et à détruire. Patrick Bateman, lui, ce personnage impuni dans un costume de dominant, était le reflet de l'Amérique de son temps et avait pourtant choqué le monde entier en zigouillant méthodiquement tout ce qui était extérieur au sien. Peut-être qu'on pourrait méthodiquement choquer les Patrick Bateman, parés de tout ce qu'ils exècrent, en mettant à nu par d'autres fictions, celles dans laquelle eux évoluent.
Diaty Diallo, lecture d'actualité cette semaine, c'était 3 livres donc. On mettra leurs références sur franceculture.fr. Jean-Claude Grimbert, à la fin du book club, on cherche de la musique dans les textes et souvent il y a des chansons dans les vôtres. On va donc terminer avec une chanson évoquée dans votre livre « Quand la terre était plate ».
Tire, tire, tire l'aiguille, ma fille. Demain, demain tu te maries, mon ami. Tire, tire, tire l'aiguille, ma fille. Ta robe doit être finie. Sous tes doigts naissent des fleurs, faites de paillettes, de diamants, le diadème d'oranger. Porte bonheur est entre les mains de ta maman. Laï, 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 tire, tire l'aiguille, ma fille. Laï, 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 tire, tire l'aiguille, ma fille.
Merci beaucoup, Jean-Claude Grimbert.
C'est moi qui vous remercie
d'avoir été avec nous pour évoquer Quand la Terre était plate, paru aux éditions du Seuil dans la collection La Librairie du 21e siècle. Et comme il arrive à des journalistes de venir chez vous pour vous demander de vous raconter votre vie, on peut proposer à nos auditeurs et auditrices de réécouter le très bel À Voix Nue, série de 5 entretiens que vous avez eu avec Mathilde Wagman sur franceculture.fr. Au son aujourd'hui, c'était Marie-Claire Oumabadi, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Love.